Europe Soir Weekend,
Christophe Pallais.
Sur la plage abandonnée.
Quelques grains de sable, une serviette, des pages ou une liseuse. Que lirez-vous cet été? Pourquoi lit-on plus l'été? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une carte postale de vacances? On va poser la question à nos invités qui nous partageront entre autres leur coup de cœur. Avec nous ce soir, une libraire, Anne Burzinski, bonsoir.
Bonsoir.
Libraire à Vaucresson et qui nous a été vivement recommandée par Nicolas Caro. Un autre amoureux des livres, le journaliste culture et critique littéraire Hubert Artus, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous.
Et puis nous aurons un auteur, pas n'importe lequel, il partage ses mots. Alors ça dépend des années, parfois 700 000, 800 000, 945 000 lecteurs. Est-ce que vous l'avez reconnu tous les deux?
Oui, ouais, oui, enfin, après on était un peu dans le secret des voix, c'est le cas de dire, et des ondes.
Très bien,
des
dieux, et ben alors oui. On va lui dire bonsoir. Bonsoir Michel Bussy.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté vous aussi de nous parler de vos livres d'été. Est-ce que vos lecteurs vous en parlent? Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes plus lu l'été?
Oui, bah c'est certain. Enfin, il y a évidemment des lecteurs qui lisent toute l'année et beaucoup toutes les semaines, mais c'est vrai qu'il y a quand même un grand nombre de lecteurs qui en fait attendent l'été pour lire et surtout pour lire les romans d'une traite. Souvent dans l'année, ils travaillent, donc ils s'endorment un peu sur les livres et lisent une heure chaque soir. Alors que l'été, c'est vraiment le moment où on peut dévorer un livre en deux jours, quoi. Ou en une journée d'ailleurs.
Alors vous avez une production qu'on peut dire assez importante. Est-ce que vous écrivez plus particulièrement pour des lecteurs de l'été?
Non, ça je crois pas. Ça je crois pas du tout.
Non, la question était tendue, je m'en doutais un peu.
Non. Après, ce qui est vrai, c'est quoi? Enfin, les gens qui lisent beaucoup, il y a beaucoup de lecteurs qui, quand ils se mettent à lire mes livres, souvent on dit que c'est des page-turners, c'est des livres qu'on a du mal à arrêter. Donc, ils peuvent se coucher très tard, à 2h, 3h du matin, parce qu'ils veulent connaître la
ils
fin.
Et
évidemment,
finir.
Le lendemain matin, c'est dur. C'est ce qu'ils me disent souvent. C'est dur parce que, voilà, il faut les retravailler le lendemain. Donc, c'est vrai que ces lecteurs de vacances, en fait, peuvent se permettre comme ça de prendre un roman et d'abandonner toute la famille et les enfants pendant une journée ou deux et de savourer ce moment de vacances où on peut ne faire que lire pendant 10 heures sans avoir trop de remords de ne pas avoir fait les courses ou à manger ou de s'être couché vraiment trop tard pour aller travailler.
Et vous, est-ce que vous lisez beaucoup l'été ?
Ouais, c'est vrai. Alors moi, je suis un grand lecteur, mais c'est vrai que depuis notamment que j'écris quotidiennement, j'ai aussi un peu plus de mal à tenir un rythme de lecture et surtout à lire des gros pavés dans l'année. Et c'est vrai que les vacances, c'est vraiment le moment où je me dis je peux enfin dévorer des bouquins de 500, 600, 700 pages.
C'est l'occasion de récupérer les retards de l'année,
voilà.
Quoi.
Exactement. Et voilà, donc c'est vrai. Et puis surtout, cette question de volume, c'est vrai que parce que le vrai plaisir de lecture, c'est quand même de pouvoir être en immersion dans un univers pendant une dizaine d'heures, une quinzaine d'heures. Et c'est vrai que c'est parfois un peu difficile de trouver ce temps-là dans l'année.
Alors, j'ai retrouvé quelques statistiques. Il semblerait que le lecteur papier emporte avec lui entre 3 et 5 ouvrages chaque été. Alors, souvent, on a les yeux plus gros que le ventre. Hein, et c'est finalement, allez, on va prendre un temps moyen de 4 jours et demi pour dévorer un ouvrage. Voilà, maintenant vous le savez, Michel Bussy, vous êtes lu en 4 jours et demi, sous le plus souvent, statistiquement. Ça va, ça vous dérange pas trop?
Ouais, c'est pas mal, parce que voilà, il y a ceux quand même qui s'endorment en lisant sur la plage, il y a ceux qui peuvent, là, comme on disait, se coucher très tard, il y a aussi le livre un peu prétexte, c'est-à-dire qu'on emporte un livre et on le lit pas forcément complètement dans l'année, voilà, on le fait traîner, et puis il y a aussi, comme moi je suis, c'est-à-dire moi j'emporte plutôt 10 à 15 livres, et généralement je les finis, donc c'est vrai que c'est un moment où je peux me coucher tard.
Vous ne faites rien à moitié, hein, ouais.
Ouais. Non, mais sans avoir de lecture. Le problème dans l'année, c'est quand on est sur l'écriture d'un livre, on a toujours le dilemme entre écrire ou lire. Et souvent, c'est le fait d'écrire qui l'emporte. C'est vrai qu'en vacances, comme c'est très rare que j'écrive en vacances, du coup, ça me permet vraiment de lire sans remords, en fait.
Alors, Anne Burzinski, je voudrais bien savoir si c'est la perception aussi que vous avez de ceux qui franchissent le seuil de votre librairie à Vaucresson. Que vous demandent vos clients? Combien de livres souhaitent-ils emporter quand ils viennent vous voir?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, souvent, c'est assez drôle, ils n'ont pas la notion forcément de quantité, mais c'est plus « j'ai du temps pour lire ». Donc, et puis, il y a un côté où la librairie indépendante, c'est vraiment un lieu de la confiance. Il y a un côté où le lien est particulier. Et donc, il y a un côté « vous me connaissez » ou il y a un côté « en tout cas, je sais que vous allez trouver ce qu'il me faut ». Et donc, c'est souvent nous qui déroulons des intrigues en leur disant « vous nous dites oui, vous nous dites non » et après, vous faites votre choix, en fait. Et souvent, bah, alors soit ils étaient partis sur un seul livre, soit ils ne savaient pas. Et puis finalement, ils partent quasiment avec tous les conseils en disant bah, voilà, ça, j'aurais pas pensé. Ou bah, en fait, tout me tente, ou je sais pas quoi. Ou de dire, ah, vous avez exactement cerné, je viens pour ça d'ailleurs, moi je viens chez mon libraire pour ça, etc. Et donc, c'est la petite pile, quoi. Vraiment, c'est le moment de la pile à lire.
Et est-ce que vous avez le sentiment qu'ils lisent plus l'été? Est-ce qu'ils vous le racontent?
Alors, nous, peut-être qu'on a un prisme un peu différent sur la réalité, parce que je pense que peut-être que les clients qu'on voit, notamment les... Enfin, on a des clients de toutes sortes, mais on a aussi pas mal de passionnés. Peut-être qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un côté... J'ai du temps, donnez-moi des munitions, je vais pouvoir me faire plaisir. Oui, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont peut-être moins lectrices l'année, mais qui nous disent, là, j'ai du temps, donc faites-moi plaisir, quoi. Ouais, je pense qu'il y a quand même un effet comme ça, pour au moins une partie, c'est clair. Enfin...
C'est aussi votre perception, Hubert Artus. Vous avez l'impression qu'on lit plus l'été? Vous
avez oui, et bien que moi, je suis dans le métier qui lit moins l'été, puisque moi, mon métier consiste précisément à lire. Là, depuis 2 mois, moi, j'ai lu beaucoup. J'ai lu à peu près 250-300 des livres qui vont paraître à la rentrée. Donc, l'été, c'est le moment où je lis un tout petit peu moins. Mais moi, dans ma valise, j'emmène quand même, parce que je lis quasiment un livre par jour l'année civile comme l'été. Et j'emmène quand même une petite vingtaine de livres pour 3 semaines où je pars ailleurs.
Bon, alors,
quand même.
Ça me sidère. Bon. Pourquoi n'emportez-vous pas une liseuse électronique? C'est
parce que j'ai
l'idéal.
Des problèmes. Bon, alors après, c'est des problèmes. Chacun ses bon, petits problèmes. Mais d'une part, voilà, les gens ne l'entendent pas. Mais j'ai des problèmes de vue et d'yeux qui fait que je ne peux pas lire facilement sur liseuse.
D'accord.
Et qu'il y a des moments où on va se baigner dans des endroits qui sont un peu isolés. Et une liseuse, comme un téléphone portable, ça peut être dangereux parce qu'il y a aussi des problèmes de vol. On ne va pas se mentir, même sur une liseuse. Donc, il vaut mieux emmener aussi pour ça le livre.
Alors que les livres
et le
ne
livre,
se volent
en
pas.
Plus, l'été, l'avantage. Et même pour les professionnels. Comme moi, libraire, journaliste ou autre, c'est que le livre est aussi ce qui va vous permettre d'entrer en contact avec le voisin de train ou la voisine de baignade. Voir, pourquoi pas, le truc bien pour draguer.
Ah oui, c'est et ça, alors, c'est le livre comme outil de drague.
Oui. Ouais. Et en outil de contact.
Pas
c'est
mal.
Ça la différence entre l'année civile et les vacances. C'est qu'on a un peu plus de temps pour parler de cette chose qui peut paraître un peu superflue, qui est précisément la lecture. Alors pour ça, moi j'ai la chance d'avoir toujours été très polar. Et alors là, il y a un truc qui ne loupe pas si vous voulez rentrer en contact facilement avec la voisine de train ou le voisin de baignade ou autre, ou le voisin d'hôtel, et bah juste, ou le voisin de camping, ça, le polar, parce que forcément, ça intrigue tout le monde. Encore plus que le feel good, encore plus que l'anomalie d'Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, qui a été le livre qu'on a plus vu sur les plages et en 2020 et en 2021. Là, le polar, vous êtes tranquille, ça vous permet de rentrer en contact, ça intrigue tout le monde, c'est un super plan.
Michel Bussy, est-ce que vous saviez que vous étiez producteur d'outils de drague?
Oui, mais si, c'est vrai. C'est vrai.
Oui.
Alors, d'ailleurs, mais c'est vrai. D'ailleurs, le même urgent pour les hommes, pour draguer, c'est de lire un livre, parce qu'il ne faut pas se le cacher. C'est quand même beaucoup plus de femmes qui lisent, même l'été. Et donc, un homme qui lit tout de suite, il a.
C'est à moitié dans votre livre. Non,
voilà,
c'est pas ça.
C'est un homme qui lit.
Homme qui lit, c'est sexy. Voilà.
D'accord. Voilà, un homme qui lit, c'est sexy. Donc, il peut plus facilement rentrer en contact avec une demoiselle sur la plage s'il a un livre que lui-même lit et qu'il peut entrer. Donc, c'est vrai que ça donne tout de suite quelque chose qui est qui est une forme, effectivement, non pas d'intellectualisme, mais en tout cas, voilà, de réflexion, de calme, de patience.
Vous voulez me dire, Michel Bussy, que j'ai peu de chance avec ma liseuse sur la plage cet été?
Voilà. Non, mais c'est vrai qu'un livre, en plus, le livre d'été, moi j'adore, par exemple, sur les salons, signer des livres qui ont été lus l'été, c'est-à-dire qu'on a encore, c'est les grains de sable qui tombent entre les pages, ou le livre qui a été un peu gondolé parce qu'il a été oublié au soleil, et c'est vrai que ces livres-là, on se dit, c'est génial, parce que le livre, il a vécu, et ça, on ne peut pas l'avoir avec une tablette, on sent pratiquement le livre qui a voyagé.
C'est clair.
Ah oui, bon. Il est patiné par l'expérience, en fait.
Par les souvenirs.
Et sans compter, alors là, je vais peut-être me mettre à dos des puristes, mais sans compter, moi, je le fais de plus en plus, de souligner des phrases qui m'ont...
Mais vous pouvez le faire sur liseuse aussi.
On peut sur liseuse aussi.
Oui,
mais
c'est vrai.
La liseuse, ça n'intrigue pas. Le Kindle, ça n'intrigue pas. Il y a rien qui intrigue plus, surtout dans des périodes de vacances où on se retrouve dans des lieux prévus pour ou pas prévus pour, qu'une couverture de livre qui vous intrigue.
Enfin,
parce que
c'est
une porte, une couverture de livre. C'est une
porte. 5 ou 6,
alors
vous en prenez 10.
Le mieux, c'est un ou deux livres qui pourront éventuellement servir de livre bidon en prétexte à drague ou autre.
Si vous voulez lire
une liseuse, si vous voulez, mais un ou deux livres comme ça.
Non, Michel Bussy ne m'a pas répondu. Michel Bussy, vous la liseuse alors?
Non, moi, je ne lis pas sur liseuse. Alors, je n'ai pas de problème particulier. Mais en fait, moi, je pense que c'est venu. J'étais prof avant d'être écrivain à plein temps. Et en fait, je passais mon temps à travailler sur ordinateur, notamment à lire des mémoires, à lire des thèses, à lire des articles. Et la lecture au plaisir était vraiment ma récréation. Et en fait, j'associe vraiment lire sur écran à un travail. Et lire sur papier et sur un livre, tourner les pages, à un plaisir, à une passion. Et c'est vrai que je n'aurais vraiment pas le sentiment d'être en vacances si je lisais sur liseuse.
Bon, Anne Burzynski, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous lisez sur liseuse. Quand même, pour une vendeuse de livres, ça serait pas sympa. Qu'est-ce qu'un bon livre d'été ?
Alors, un bon livre d'été, alors j'ai envie de dire, c'est très drôle cette question parce que ça, en fait, ça correspond beaucoup à notre quotidien en librairie du client qui vient nous voir en nous disant « je voudrais un bon livre
». Déjà.
Et du coup, alors ça, il n'y a pas de bon livre dans l'absolu pour moi. Il y a évidemment des bons livres pour moi, mais qui n'est pas forcément le bon livre pour cette personne. Et moi, je ne suis pas partisane non plus de lui remettre entre les mains ce que je considère comme un bon livre si ce n'est pas un bon livre pour elle ou pour lui. Donc, un bon livre d'été, c'est déjà le livre qu'on a eu envie de lire toute l'année, par exemple, et on n'a pas pris le temps. Ça peut être le bon vieux classique à découvrir ou à redécouvrir. Ça peut être effectivement le bon polar de Michel Bussy qu'on s'est mis de côté en se disant « je vais avoir du temps, je vais pouvoir me délecter et me détendre ».
Le clin d'œil est sympa.
Ouais, allez.
Merci beaucoup.
Mais non, mais c'est vrai que c'est le bon livre, c'est vraiment celui qui nous fait du bien. Et ça peut être à la fois, je pense, le classique, encore une fois, qu'on prend le temps parce que cette fois-ci, ouais, on a le temps. Et ça peut être... voilà, c'est vraiment selon les profils. Moi, j'ai mes idées des bons livres, mais qui sont pas forcément tous les mêmes, quoi, en fait.
Mais je trouve qu'Hubert Artus y a déjà pas mal répondu tout à l'heure. Un bon livre pour vous, c'est un polar, un thriller, non?
Alors, c'est l'idéal. Le livre de vacances, c'est celui qui correspond avec l'humeur que vous avez. Ça peut très bien être un livre de recherche psychologique ou autre. Si vous êtes dans une période de remise à flot, de remise en question, ça peut être un polar parce que c'est vrai que ça. Les westerns et les romances, c'est les fictions les plus distrayantes qu'on ait inventées, en série télé comme en littérature, comme en fiction romanesque. Ça peut être une série de romans, ou alors ça peut être effectivement, il y a bien un tiers de la population qui fait ça, c'est les 2-3 prix littéraires que vous n'aviez pas encore eu le temps de lire, parce que vous l'avez souvent offert ou reçu à Noël, mais sauf que depuis Noël, vous n'aviez pas eu le temps de le lire. Voilà, mais avant tout, le livre qui correspond à l'état dans lequel vous êtes, et éventuellement à l'endroit où vous allez, si vous avez la chance d'aller quelque part.
C'est très vrai. Hein. Je me souviens d'un été où j'avais avec moi un essai de Jacques Attali.
Bon, oui, oui.
Bon, mais voilà, mais c'était
parce que
un
c'est
moment.
C'est là qu'on a le temps serein et la sérénité et la disposition rentrée. Psychique voilà. Personnelle pour le lire. Et ça, c'est vachement important.
On en vient au coup de cœur. Alors, on va faire le tour de votre coup de cœur. Michel Bussy, quels sont vos coups de cœur que vous nous encourageriez à emporter pour cet été ?
Allez, je vais en citer trois. Moi, je vais citer alors les romans de Romain Puertolas, qu'on connaît pour le Fakir, mais qui a depuis beaucoup écrit de polars, et notamment le dernier qui s'appelle Les Ravissantes, et de ceux d'avant qui s'appelaient La Police des Fleurs et Sous le Parapluie d'Adélaïde, et qui est vraiment du polar divertissant avec du twist. C'est très frais, c'est très bien écrit, donc j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une lecture de vacances idéale.
Les Ravissantes, pour le résumer en deux mots, c'est un journaliste confronté à une énigme, la disparition de plusieurs adolescents sans mobile apparent.
Exactement, voilà.
Dans l'Arizona, je crois. Ouais.
Voilà, et ça se passe aux États-Unis. Ensuite, parce que j'aime bien m'emporter un classique, en tout cas un ouvrage moins récent ou des ouvrages moins récents, donc je vais citer Charles Ex Braillat, qu'on a peut-être tendance un peu à oublier, alors que c'est vraiment le pape du polar humoristique, notamment on le connaît pour Les Imogènes, donc allez-y, piochez au hasard.
Sa fantasque héroïne écossaise.
Voilà, tout Ex-Braillat est bon. Enfin voilà, donc il faut parfois, comme dans Les Saint-Antonio, en prendre un au hasard et puis se laisser charmer par l'humour. Et puis moi, je suis fan de BD, alors je ne pouvais pas ne pas citer de BD. Et je vais citer Timothée Le Boucher, qui est un jeune auteur de BD surdoué, qui a écrit 51 cordes, je pense que c'est le dernier. Mais moi, mon coup de cœur, c'est vraiment les jours qui disparaissent, qui est une BD fantastique, assez géniale. Mais enfin, tout ce que fait Timothée Le Boucher, je trouve que c'est vraiment excellent. C'est de la BD réaliste, avec une grande touche de fantastique, et c'est très bon.
Eh ben, on va mettre vos coups de cœur sur Europe1.fr, comme ça nos auditeurs pourront les retrouver et pourront ensuite aller les acheter. Anne Burzynski, quels sont vos coups de cœur, vous, pour cet été ?
Alors déjà, effectivement, le bon vieux classique, j'allais dire, alors mon classique ultime à mon panthéon, on va dire, c'est... Bon, il y en a évidemment plein, mais J'avais vraiment envie de vous parler de Frankenstein de Mary Shelley, mm-hmm. qui est paru en 1818, mais qui est, j'allais dire, d'une modernité.
Et vous le vendez encore?
Ah ouais, mais moi je...
En livre d'été.
En livre d'été, c'est osé.
Ça, c'est osé. Ça, c'est un pari osé. Mais intéressant.
Pour des vacances effrayantes.
Bah ouais, voilà. Et pourquoi pas, après tout, se faire un petit frisson, mais parce qu'il y a tellement plus que ça. En plus, c'est justement se dire, tiens, j'ai le temps, est-ce que j'irai pas découvrir, comme on disait, un classique et voir ce qu'il y a derrière? Parce que Frankenstein, justement, derrière... l'idée populaire qui est présente en fait dans l'imaginaire collectif de ce monstre vert avec ses clous dans la tête, et j'exagère à peine, il y a tellement plus que ça, que c'est de se dire, tiens, c'est vrai, il m'a intrigué souvent ce monstre, on l'a vu en costume, on l'a vu, c'est le truc d'Halloween de service, enfin, il est très présent dans la culture, presque dans la pop culture, mais qui est-il vraiment?
Et en fait, là c'est les racines, c'est le premier Frankenstein.
Ouais, bah c'est le Frankenstein d'origine qui a donné en fait après toute l'iconographie qu'on a pu en avoir. Mais qui était, en fait, c'est vrai qu'on a retenu plutôt le côté gothique ou le côté horreur, mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est un roman philosophique. C'est,
d'ailleurs, il est intitulé Où le Prométhée moderne.
Tout à fait. Hein et du coup, bah, pourquoi? Bah, tout simplement parce que, alors, déjà, à dire, justement, dans ce qu'on oublie dans l'imaginaire populaire, c'est que déjà, Frankenstein, c'est pas le nom du monstre, puisque précisément, la créature n'a pas de nom. Et c'est d'ailleurs un vrai problème. Elle a été créée par un scientifique qui s'appelle Victor Frankenstein. Et donc, Frankenstein, c'est son nom de famille. Et donc, cet homme, pourquoi le Prométhée moderne? C'est parce que c'est un scientifique qui va aller trop loin, qui va transgresser les règles, qui décide que la mort ne doit plus exister et il va se donner tous les moyens. Et donc, il y a à la fois tous les thèmes du 19e, la psychiatrie, le double, évidemment, tout le rapport à l'électricité... Enfin, il y a énormément de choses, toutes les questions. Et puis, en même temps, on a tout ce qui est de notre époque et qui est universel, c'est-à-dire sur l'ambition, sur la responsabilité. Enfin, il y a vraiment tout. Et je vous dis, notamment philosophiquement, je trouve que c'est un roman extraordinaire qui nous intrigue tous parce qu'on le connaît sans le connaître. Mais alors, du coup, voilà, d'aller voir aux origines, mais qu'est-ce que c'était vraiment, en fait? Et c'est génialissime. Et ça n'a pas pris une ride.
Malgré ces quelques années. Un deuxième coup de cœur.
Alors, un deuxième coup de cœur, et pourquoi pas un roman jeunesse. Mm-hmm. Mais alors, pour le coup, ce type de roman adolescent qui peuvent être lus par des adultes, et pitié que toute la famille le lise, parce que vraiment, c'est génialissime. C'est un livre qui s'appelle « Jusqu'ici, tout va bien » de Gary Deschmidt. Ça a été publié à l'École des loisirs. Ça se passe en 68, mais ce n'est pas du tout un roman historique. Et à part le contexte de la guerre du Vietnam, qu'on oublie assez souvent, c'est très peu présent. Donc, c'est plus un roman initiatique.
Ça se passe où? Aux États-Unis?
Ouais, aux États-Unis, tout à fait. Au départ à New York et ensuite dans la ville de Marysville, qui est surnommée la stupide Marysville par notre héros qui ne voulait pas déménager de New York. Et donc lui, il a une vie qui n'est pas toujours marrante parce que son père est un peu violent, on sent qu'il se cherche un peu. Et en fait, par un espèce de hasard, il va entrer dans une bibliothèque et il va découvrir les gravures de Audubon. Donc vous voyez ces planches d'oiseaux magnifiques et il va se découvrir un don pour le dessin. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout le côté roman initiatique. C'est un livre vraiment sur pareil, énormément de choses et qui prend pas du tout les adolescents pour des idiots. Au contraire, Gary Deschmidt, il a un espèce de respect total pour l'adolescent en disant « J'écris pas pour les jeunes, par dépit, mais parce que justement cet âge me passionne et parce que j'ai des choses à dire. » Et ça se sent.
Un dernier coup de cœur, Anne Buzinski.
Alors, un dernier coup de cœur, ce serait « Un été à l'Islette » de Géraldine Geffroy. C'est paru chez Arléa. Et là, vous passez donc justement un été au château de l'Islette, donc c'est dans la vallée de l'Indre. On est en 1892 et vous allez passer l'été avec qui? Avec Camille Claudel. Et avec, si vous voulez, Rodin, mais qui est présent en pointillé. Il va passer de ci, de là, il s'absente, il revient. Et donc Camille Claudel est à un moment, elle est en train de réaliser sa sculpture de la valse. Mmh. Donc on la suit en action avec cette espèce de côté fébrile qu'elle pouvait avoir. Et en même temps, on voit les correspondances qu'elle échangeait avec Debussy, qui était son ami dans la vie. Donc, il y a un côté assez délicieux, un vrai petit bonbon à ambiance, comme ça. C'est facile à lire, mais c'est intelligent et ça vous plonge dans une époque. Et voilà, c'est vraiment un bonheur aussi d'été, parce que ça se lit, mais c'est d'une efficacité folle. Et pourtant, c'est pas bête du tout, au contraire. C'est, vous apprenez des choses, vous avez envie d'en savoir plus, et c'est très, très plaisant.
Bon, bien vendu, je l'entoure, ça donne envie. Hubert Artus, pour vous.
Alors, moi, je vais commencer par un premier. Alors, je vais pas me dédire, hein, par un roman noir. Je vais parler du quatrième roman d'un type qui s'appelle Benoît Philippon. C'est aux éditions des Arènes. Benoît Philippon, il fait à la fois dans le roman distraction, dans le road movie, dans le roman féministe et surtout dans le roman à punchline et à gag et grande cause et grande conséquence. Et là, Petiot, au singulier, c'est le titre du roman qui est paru au mois de mars. C'est un type qui, le même jour, apprend qu'il a enfin... Il va enfin pouvoir toucher son RSA, mais le même jour, il attend qu'il vienne perdre la garde de sa fille. Et pour récupérer la garde de sa fille, il va falloir qu'il fasse un acte héroïque, parce qu'il n'a jamais été à ce jour le héros de sa propre fille. Qu'est-ce qu'il va faire comme acte héroïque? Il va prendre tout le monde en otage dans l'hôtel où il
vous
le raconte dans la ville.
Non, mais
je dis le début. Et alors, c'est cette prise en otage.
Parce que j'ai failli vous poser la question et je me suis dit, je vais me.
Qu'est-ce qu'on
prendre
dit
des
ou pas
fous,
dans un
voilà, c'est ça.
Et c'est toute cette prise en otage avec chambre par chambre, étage par étage qui va être racontée. Parce que effectivement, ça amène les caméras et les télés dans toute la ville. Ce fait divers, ce père qui veut se faire justice lui-même, obtenir justice lui-même, va-t-il devenir le héros de sa propre fille? Vous verrez, parce que la prise d'otage qui ramène toutes les télés, ça embête quelques gens d'un étage de l'hôtel qui faisaient du business et de la vente de drogue dans l'hôtel. Donc eux, ça ne les arrange pas. C'est un peu... C'est le Elmore Léonard français. Elmore Léonard, c'est celui qui a écrit notamment Punch Creole, qui a donné le film de Tarantino, Jackie Brown. C'est de la distraction, du roman d'action qui ne se regarde pas écrire et de la punchline. Si Elmore Léonard a un fils spirituel en France... Elmore Léonard, c'est mon dieu à peu près en littérature. S'il y a,
donc
il y a
avec un peu
fils,
de soul américaine, de
voilà,
funk dans les oreilles
voilà.
Des années 70.
Avec de la punchline, avec un gros engagement féministe pour ce qui est de Benoît Philippon, c'est super. Petit okay. Aux éditions des Arènes.
Un deuxième coup de cœur.
Alors là, Bernard j'irai aux USA. Et c'est un premier roman d'un type qui s'appelle John Woods, qu'on a vu paraître chez Albin Michel également au début de l'année. Ça s'appelle Lady Chevy. Et je vous dis juste la première phrase. Alors c'est dire si je vous spoil rien là. La première phrase, c'est la suivante. On m'appelle Chevy parce que j'ai le derrière très large comme une chevrolette. Ça, c'est la narratrice. C'est une jeune ado. Son frère est mourant, son tout jeune frère. Pourquoi il est mourant? Parce qu'il a été empoisonné. Pourquoi est-ce qu'il a été empoisonné? Parce que les nappes phréatiques de l'Ohio, où ça se passe, sont polluées. Pourquoi elles sont polluées? Parce que dans le village, on a souloué un peu tous les sous-sols à des firmes multinationales qui, justement, extraient du gaz de schiste et qui polluent. Et c'est pour ça que les enfants sont atteints et possiblement malades. Elle va vouloir, elle aussi, justement, un peu venger l'honneur de sa famille. Et alors, il va y avoir une question de l'activisme environnemental. Et c'est aussi là-dedans qu'elle va nous mener, avec une voix... Alors, c'est moins punchline et moins drôle comme ça, à proprement parler, que le roman dont je parlais précédemment, pardon.
Ouais,
mais c'est d'une émotion et d'une justesse sur le racisme, sur la grossophobie, parce que donc elle a d'ailleurs aussi large qu'une chevrolette, et sur l'engagement générationnel contemporain, hein, extrêmement contemporain. Il se passe dans l'Amérique de Trump, hein, le roman. C'est superbe. C'est un romancier qui est venu à divers festivals en France, dont Étonnant Voyageur à Saint-Malo là, récemment, John Woods, mais c'est superbe et je défie quiconque de ne pas être ému à en pleurer. Ce qui n'empêche pas de draguer, je précise.
Bon, dernier coup de cœur, Hubert Artus.
Alors là, je vais un peu réunir les deux, justement. C'est un peu Héros et Thanatos. C'est un roman d'Adeline Fleury. Donc là, c'est une Française qui est parue chez Julliard au tout début de l'année également, qui s'appelle Les Frénétiques. Et là, pour le coup, c'est aussi un roman d'été parce qu'il se passe en plein été. On va sur les îles au large de la botte italienne et de la Sicile et de l'Adriatique. Et c'est l'histoire d'une femme qui elle part en vacances avec son fils qui a 10 ans. Et puis, il va lui arriver pour la première fois un désir pour une autre femme qu'elle ne connaît pas. Donc va-t-elle l'assouvir ou pas? Je vous laisse lire, parce qu'il y a aussi le regard de son fils de 10 ans là-dessus, parce que lui, il voulait juste passer des vacances avec sa mère. Et puis, cette narratrice, comme celle de qui elle tombe amoureuse, c'est un peu les deux bombes de l'île, et donc elles vont être aussi désirées par des hommes, voire des prédateurs. Et ça peut se finir justement aussi en polar, là, pour le coup, parce qu'elles vont être acculées. Et là, on est sur une Italie qui nous fait penser à celle de Pasolini, pourtant ça se passe de nos jours, avec une question du désir, un érotisme, une chaleur, et puis aussi une histoire d'une mère avec son fils. Qu'est-ce que je lui montre? Qu'est-ce que je lui montre pas? C'est la première fois que je pars avec lui. Voilà. C'est là pour le coup, on est vraiment sur le roman d'été qui se passe en été, où il est question de désir, d'écriture de l'érotisme, d'écriture des sentiments et de la filiation.
Et bien avec tout ça, avec tous ces kilos de livres qu'on va pouvoir emporter en vacances, on ne manque pas d'idées de lecture. Merci beaucoup.
Et dernier Michel Bussy, vaut le coup aussi. Je dis pas ça Nico,
oui,
parce que c'est lui qui sait que
les livres de chronique sont. Voilà, il y a Nouvelle Babel qu'on peut encore lire, même s'il est sorti il y a quelques mois, mais pour l'été c'est parfait, non? On va se replonger
en
2097. Voilà, Michel Bussy qui vient aussi de sortir en collection jeunesse L'Empire de la Mode chez Pocket Jeunesse. Hubert Arpus, Girl Power, 150 ans de football féminin. On espère que ça va.
Chez Calman Levy.
Ça va porter chance à nos Bleus qui sont qualifiés pour les quarts de finale. Et puis merci à Anne Burzinski, dont vous pouvez retrouver les conseils avisés donc à la librairie L'Écriture à Vaucresson, près de Paris.
Merci à tous.
Un grand merci à vous tous. Bel été. Demain dans Panorama, nous penserons à l'avenir de nos villes face au réchauffement climatique. Comment repenser nos espaces de vie pour faire face demain à ces vagues de chaleur qu'on va connaître jusqu'à lundi. D'ici là, bonne lecture et bonne soirée sur Europe 1. À suivre le Club Tour, présenté en direct de Mende par Axel May. À demain.